1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'émission Le Grand Tout, ici en enregistrement léger différé, bon il y a quelques heures entre le moment où nous sommes ici, nous autres, autour d'une table carrée à la salle Guy Repartz, théâtre Lilico, pour parler du festival Marmaille, qui a commencé mardi, qui commence en ce moment, on va en parler précisément avec nos invités, Virginie Driano, directrice du théâtre Lilico, et puis Enora Boel, autrice, comédienne, de cœur avec les doigts, membre du joli collectif. On parlera aussi avec Gilles de Bénat, auteur, interprète, concepteur de marionnettes, metteur en scène et même auteur de bande dessinée. Imaginons, pourquoi pas, d'un personnage sans histoire. Il fait partie de la drôlatique industry. Et puis aussi nos musiciens, Cédric Guillaumard et Vincent Périgaud, auteurs, compositeurs, musiciens, qui eux nous parlent d'un soleil absolument... fou, en fait, une planète soleil carrément.
Un soleil très très chaud,
ouais, voilà. On va commencer peut-être par discuter avec Virginie Driano, hein, tu viens d'arriver en poste pratiquement il y a quelques mois quand même. L'annonce a été faite à la fin de l'année 2023, directrice du théâtre Lilico. Comment on arrive à ce poste-là? On le cherche depuis longtemps, ce poste-là, on l'espère, on l'attend, on le conquiert comment?
On le convoite énormément. J'en sais trop rien, en fait. En tout cas, si, c'est beaucoup de chance, je pense, d'être ici aujourd'hui. En tout cas, j'apprécie ma chance. Et ça, c'est pas mal du tout. Moi, je travaille dans le secteur jeune public depuis... j'ai l'air très jeune, hein, mais depuis 15 ans. et voilà, j'ai une vraie appétence, en fait, pour ce secteur. Les artistes voilà, qui sont dans ce... qui créent, en fait, pour le jeune public. Et ce qui fait que j'ai cheminé, en fait, dans l'éducation populaire, dans une structure qui était le théâtre de Laval, puis en collectivité, et ce poste s'est libéré et je me suis battue bec et ongles pour présenter un projet quand même, parce que c'est une scène en préfiguration, donc une scène reconnue d'intérêt national art enfant jeunesse. C'est pas encore acquis, mais on l'espère.
Ça c'est une volonté forte, hein, de l'obtenir, ce label là.
Alors c'est pas un label, c'est une appellation. Oui, moi j'en ai très envie en fait, puisque c'est pas lié qu'à m'en arriver, c'est en fait un long travail fait par l'équipe de Lilico depuis très longtemps, puisque là en fait la 32e édition du festival, et je trouve que ce serait une belle reconnaissance en fait des partenaires publics. Et en sachant que le secteur est très fragile, je ne vais pas vous faire un petit cours accéléré du contexte actuel budgétaire, et ce qui fait que ce serait aussi une belle assise pour la suite de cette aventure. Voilà.
Ça apporte quoi, outre la reconnaissance d'être scène d'intérêt national? Des financements, une meilleure visibilité, une meilleure reconnaissance, je le disais à l'instant.
Un peu tout ça. En fait, financement, je ne pense pas, puisqu'on nous redit tous les jours à quel point les caisses de l'État, enfin les caisses de manière générale, sont vides. Donc, ce serait peut-être pas cet endroit-là, mais en termes, oui, de structuration du projet, de mise en réseau. Il y a des réseaux informels de scènes conventionnées qui existent, auxquelles je participe, même si on n'est pas encore figuré. Et c'est hyper intéressant, en fait, de penser ensemble, en fait, cette structuration et cette reconnaissance du secteur de la création pour l'enfance et la jeunesse qu'on a grand besoin.
On est ici pour évoquer ce festival Marmaille. C'est une partie seulement du travail du théâtre Lilico, évidemment. C'est la rentrée, c'est le temps fort de saison, mais il va se passer quoi d'autre? Beaucoup de choses, en fait, une fois que les scènes se seront fermées et puis que les artistes seront retournés après leur belle création ici. On va en parler de ces créations-là. Il va se passer beaucoup de choses ensuite, après,
oui,
Marmaille.
Oui, tout à fait, merci de le dire. En fait, on se dit que le Festival Marmaille, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de tout, en fait, tout ce que fait le Théâtre du Lilico toute l'année. Et là, on a densifié la programmation, à savoir dès novembre. On aura le plaisir de vous retrouver ici, en fait, à la salle Guy Repartz, pour des propositions pour tous les âges, en fait, à partir des tout petits, donc dès la naissance jusqu'à 9, 10, 11 ans. En fait, il y a donc des spectacles de novembre à mai. Et puis, notre temps fort hors les murs, construit avec les acteurs sociaux du quartier, qui s'appelle Surprise Party, qui est notre temps fort de sortie de saison.
Voilà. Avant tout ça, eh bien, des surprises, il y en aura partout ici pendant le festival Marmaille. Et une surprise party dance floor en Kapla Boom collaborative. Alors, moi, je vois ce que c'est, les Kapla. Je pense que tout le monde ici aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fabrique des structures en bois et on danse dessus, dedans, à côté, avec. C'est quoi une Kapla Boom collaborative?
Alors,
personne ne sait.
Si, si, moi j'ai une petite idée. En fait, non, c'est une construction en fait de, avec des Kapla géants couleur fluo mis au plateau, donc hyper mis en valeur et collaboratif parce qu'en fait c'est une construction format géant et on peut être plusieurs en fait à voilà y participer. Même si on se connaît pas, c'est pas très grave. Et en fait, il y a de la musique, du DJ en fond sonore pour en fait voilà, pas hésiter à bouger en même temps qu'on construit. Voilà ce que c'est une Kapla Boom géante.
J'ai l'impression que c'est une sorte de résumé de ce qu'est le théâtre Lilico, quoi, de pas hésiter à bouger pendant qu'on construit.
Oui, en tout cas, tout est possible.
En tout cas, des personnes qu'on a aussi autour du plateau ici bougent et créent constamment. Et ça tombe bien, il y a ces trois créations qui sont montrées ici pendant le festival Marmaille. Je vais tourner vers toi, Enora, à propos de cœur avec les doigts. Tu peux nous faire un cœur avec les doigts, s'il te plaît? Oui, tu reposes le micro, du coup, c'est obligé. Ah, voilà. Enora Boel fait un cœur avec les doigts, un gros cœur avec les doigts.
Il y en a plusieurs méthodes.
Il y en a plusieurs. Et en tout cas, ce spectacle-ci, bah oui, il est en création. Tu le proposes pour nous faire imaginer ou faire comprendre ce que sont les choses de l'amitié, de l'amour. Il est né comment celui-ci? Tu voulais toi-même replonger dans ton passé, savoir comment étaient nées chez toi ces choses de l'amour, de l'amitié?
Oui, alors déjà on va essayer de pas apporter de réponse parce qu'on galère à les trouver et je crois qu'on pourrait faire toute une carrière sur des spectacles sur l'amour. Et comment il est né? Ben, il est né d'une rupture. Il est né d'une grosse rupture et qui a fait que j'ai eu envie de me poser des questions sur effectivement d'où on vient dans notre conception de l'amour, comment on se construit socialement dans le lien à l'amour et comment on nous bourre le crâne avec beaucoup de choses qui finalement ne sont peut-être pas si intéressantes que ça. Donc effectivement, là on est quatre au plateau, ce qui change par rapport à mon travail habituel où je suis en solo. C'est une coécriture avec Mardi. Alias Marie Dilasser. Et voilà, on a réfléchi tous ensemble au travers de nos expériences d'humaines, d'amoureuses, d'anciennes amoureuses, dans nos parcours de vie respectifs, pour écrire ce spectacle. Donc on l'a écrit à vraiment plusieurs mains, mais au final avec Mardi.
Je fais juste un premier tour de table, comme ça on va s'intéresser un peu plus précisément évidemment à chacun des spectacles. J'arrive à vous deux, Mosè et Vincent. C'est avec Soleil Planète que vous vous exprimerez pendant le festival Marmaille à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Cœur avec les doigts sera joué aussi plusieurs fois les 17 et 18 octobre. Soleil Planète sera joué les 19, 20, 22, 23 octobre. Vous avez eu envie, vous, de vous adresser aux tout petits. C'est pas la première fois que ça arrive dans votre carrière respective?
Absolument. On en a fait déjà, avant de s'adresser aux tout petits, on avait fait 3 concerts pour les 7 ans et plus. Et on s'adresse aux tout petits depuis 8 ans maintenant. C'est notre 3e concert pour les 0-5 ans.
Alors, ouais. Oui, vas-y.
Non, j'allais dire oui, c'est un public, ce qu'on aime beaucoup dans ce public là c'est qu'il est pas du tout formaté, pas du tout poli, et que du coup il est ouvert à tout, si ce n'est que s'il s'ennuie ou si il a des émotions un peu je dirais un peu fortes, et ben on peut le perdre. Donc c'est un peu l'intérêt qu'on trouve aussi dans ce public là c'est comment faire pour qu'il soit avec nous, qu'il passe un moment avec des émotions chouettes, puisque nous on est quand même plutôt sur la joie. Et donc c'est cette idée que pendant 30 minutes il va être nourri d'émotions joyeuses et voilà, et c'est ce qui nous plaît, voilà, c'est ce côté pas poli.
Mosè, Cédric Guillemard et puis ton complice Vincent Périgaud, vous vous êtes attelé tous les deux à l'écriture de ces chansons, de ces musiques radieuses, comme le soleil de la même planète.
Alors oui, Soleil Planète, c'est un concert donc pop électro. Et alors Cédric va être plus sur la partie écriture, mais aussi sur la composition, plus acoustique. Avec guitare acoustique. Et moi, je vais être plus sur la partie électro des chansons.
On va aborder un peu plus avant, hein, qu'est-ce qui se passe sur cette planète-là. Est-ce qu'on aime juste des câlins et des bains? Bon, pas seulement, mais ça fait partie des paroles d'une des chansons de Soleil Planète. Et puis on termine ce rapide tour de table pour présenter nos invités aujourd'hui. Eh bien, avec cette fois-ci Gilles Desbenas. Bonjour
ça.
Gilles. Bonjour. Un personnage sans histoire qui est un peu sur les murs ici, hein, de la salle Guy Ropartz, si j'ai bien compris. Pour n'avoir pas vu le spectacle, malheureusement. Alors, me fais pas une Albert Dupontel en partant en courant parce que j'ai pas vu le spectacle, hein, s'il te plaît. C'est un peu l'histoire d'une marionnette qui n'a pas d'histoire, en fait.
C'est ça. Et c'est une histoire vraie. C'est une marionnette que j'ai construite il y a 12 ans, comme ça, pour le plaisir de construire. Et c'est une marionnette que j'aime beaucoup et j'ai essayé à plusieurs reprises d'écrire une histoire pour elle. Et ça a été à chaque fois des tentatives inachevées, des tentatives inabouties. Et il y a 4 ans, pendant le premier confinement, j'ai emmené cette marionnette chez moi et j'ai commencé à la dessiner et puis, de fil en aiguille, à faire une bande dessinée sur elle, sur sa vie qu'elle n'a jamais eue en tant que marionnette, en fait. Où elle n'a pas eu d'histoire, donc elle cherche une existence, mais elle en est empêchée parce que son créateur a le syndrome de la page blanche, quoi.
Alors c'est un peu un spectacle méta, j'ai l'impression, qu'il parle, il montre le spectacle lui-même et puis il parle du fait d'écrire le spectacle en même temps qu'on le voit. Est-ce que c'est pas un peu tordu en fait comme façon de procéder ?
Non, en fait c'est un spectacle qui parle de la création aussi, de l'envers du décor, de tout ça. Et nous, ça fait longtemps avec la compagnie qu'on aime ça, montrer les coulisses vraiment, les croquis préparatoires, tous les storyboards, ce que le public ne voit pas en général, quoi. Et c'est vrai que ce spectacle permet ça.
On va en parler précisément de tous ces spectacles. On revient dans une seconde après une première sélection musicale. J'ai demandé à chacune des invités de nous proposer leur morceau du moment ou un extrait peut-être du spectacle. Virginie, c'est quoi ce titre qu'on va écouter maintenant ?
The Rip de Portiched.
Pourquoi ? En quelques mots ?
En quelques mots, parce qu'il fallait choisir rapidement. Et je sais pas, cette musique me porte. J'ai l'impression qu'il y a ça ouvre quelque chose en moi d'assez extraordinaire. Voilà, assez puissant.
Eh bien, je suis persuadé que ça va ouvrir des choses assez puissantes chez les auditeurs, auditrices qui sont autour de nous et qui nous écoutent sur Canal B. À tout de suite pour la suite de cette émission Le Grand Tout spécial Marmaille 2024.
Send the dark on to
sélection de Virginie Dreano, directrice du Théâtre Lunico, qui a créé beaucoup d'émotions ici sur le plateau à Guéropartz dans l'enregistrement de cette émission. C'est surtout Mosey qui sautait partout, en fait, on peut le dire. Il acquiesce.
On peut le dire, oui, ce morceau, moi, il m'a tout ouvert aussi. Moi, j'étais vraiment, c'était délicieux. Merci beaucoup.
Le festival Marmaille vous offre la possibilité de venir, en famille, petit, grand, tout le monde peut venir ensemble, bien sûr. Alors, il y a des moments qui sont plus réservés aux rencontres professionnelles, on en parlera un petit peu plus tard avec Virginie, sans doute. Les différentes tranches d'âge qui sont concernées par ce qui est proposé à Marmaille, ça commence dès tout petit avec les 0-5 ans, par exemple.
Oui, en fait, on a vraiment prêté attention sur cette édition qu'il y ait des propositions pour les tout petits et qu'elles soient diverses, en fait, dans les esthétiques ou dans les disciplines. Donc, vous pouvez venir en famille ou pas, d'ailleurs, à partir de tout petit jusqu'à un grand âge, en fait. Ouais.
Il y avait auparavant un rendez-vous qui s'appelait Figure, qui n'existera plus.
Oui, en fait, la dernière édition a eu lieu en 2024, en fait. C'est lié au changement de direction, ça amène à d'autres choix. Et puis l'idée de densifier la saison, il y a une mécanique assez logique, c'est un peu triste, mais c'est économique, qui fait que pour densifier, il fallait enlever des choses. Voilà.
Figure qui était un temps destiné vraiment aux plus petits.
Alors, destiné aux tout petits et qui était aussi un temps très expérimental, en fait, alors qui était intéressant, hein, mais qu'on va transformer petit à petit, en fait. Moi, janvier, c'était comme hier, et chemin faisant, peut-être qu'on trouvera d'autres formes, en fait, d'expérimentation ou autre, mais on y va doucement et sereinement.
Il y a des accompagnements qui se poursuivent, de toute façon, évidemment, entre le Théâtre Lilico et puis des compagnies, des comédiens, des comédiennes, des auteurs, des autrices. Est-ce qu'ils sont compliqués à faire ces équilibres dans une création avec le concours de beaucoup, beaucoup de structures qui soutiennent les compagnies ?
Qui est nécessaire à la création d'un projet. Il y a beaucoup d'accompagnement, en fait. Oui, c'est l'économie du spectacle vivant, en fait, qui fait que les équipes artistiques ont besoin de soutien. Et là, donc, il y a une série de lieux, mais qui ne sont pas trop nombreux, en fait, pour permettre aux artistes de créer dans de bonnes conditions. Donc, la vraie difficulté, à la limite, c'est malheureusement de devoir faire des choix, puisqu'on a un rôle d'accompagnement en résidence et en coproduction, et aussi, je trouve, en accompagnement, en discutant, enfin, c'est bête, mais en permettant la rencontre et l'échange avec les artistes, ça coûte pas grand chose, ça coûte du temps, en fait, et une disponibilité, moi, qui me paraît tout à fait indispensable, en fait, à la bonne relation entre les personnes, en fait, puisqu'on reste des personnes avant toute chose. Ça, voilà, ça me semble important, mais pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de devoir faire des choix, puisqu'on est dans une économie contrainte.
Qui fait quoi à chacun des endroits, en fait, d'accompagnement ? Parfois, ça va être une résidence à un endroit, parfois, ça va être un regard de la part d'une autre structure. Voilà. Et je vais prendre un autre exemple concret. Cette fois-ci, je pars de Soleil Planète. Salut.
Salut, c'est super que tu nous prennes comme exemple. On est très touchés.
Je vais m'intéresser à un personnage sans histoire et puis on va voir comment s'est monté ça avec cette coproduction, le canal, le théâtre du Pays de Redon, la scène conventionnée d'intérêt national, la récréation pour le théâtre Redon, l'Idico, communauté de communes Terre du Haut-Berry. Et je peux en passer, le centre culturel Juliette Drouet à Fougères, il y en a encore une bonne liste. Ça correspond à quoi finalement cet accompagnement de création pour une troupe ?
En fait, ça c'est la recherche de partenaires au départ. Donc on a l'idée du projet, mais pour le concrétiser, il faut qu'on ait des partenaires, des salles ou des festivals qui accompagnent ce projet, donc financièrement ou en résidence de création et en préachat. Donc ça, c'est une fois qu'on a l'idée, qu'on a l'envie, c'est un des premiers travaux qu'on doit faire, qui peut durer longtemps, de trouver concrètement comment réaliser le projet, en fait.
On va revenir au spectacle en eux-mêmes, un personnage sans histoire, Gilles Desbénins et la drôlatique industrie. Là, le spectacle, il naît parce qu'il existe une marionnette qui a été fabriquée il y a un peu plus d'une dizaine d'années.
Il y a 12 ans. Ouais.
Il y a 12 ans précisément, ce qui n'est pas exactement la même chose que pour le spectacle d'Enora, Cœur avec les doigts, ou bien le spectacle Soleil Planète. De vous deux, Mosey et Vincent, c'est que là, ça fait pas 12 ans, j'imagine, que vous avez commencé à penser à ces spectacles-là, aussi bien Mosey qu'Enora. Tandis que toi, Gilles, tu as pensé il y a 12 ans ou il a fallu un peu de temps pour que tu te repenches sur cette marionnette ?
Alors en fait, le truc, c'est que je l'ai fabriquée il y a 12 ans, mais sans avoir d'idée d'histoire pour elle. Juste comme ça, pour le plaisir de faire, quoi. Et ça, je le fais assez souvent, en fait. Régulièrement, je crée des marionnettes. Alors, des fois, c'est vraiment pour jouer dans un spectacle spécifique. Mais il y a aussi plein de fois où j'ai besoin de construire juste des marionnettes comme ça. Et elle, c'était le cas. Et du coup, voilà, j'ai jamais réussi à faire une histoire avec elle. Et je me suis dit que c'était intéressant, justement, de raconter sa non-histoire à cette marionnette-là. Et de voir par où elle est passée et raconter ça de son point de vue à elle, de marionnette, qui a conscience qu'elle est un objet marionnettique. Quelle est conscience qu'elle a été créée il y a 12 ans, qu'elle a un créateur, en l'occurrence moi. Et voilà, ce qui était intéressant, c'est de voir tout ce par quoi elle va passer, toutes les émotions qu'elle va traverser dans l'espoir d'avoir une existence.
Et cette marionnette, évidemment, elle est manipulée sur scène. On voit la manipulation avoir lieu ?
Oui, alors on est deux sur scène. Il y a Antoine Malfette qui est à la manipulation de cette marionnette-là. Moi, je joue mon propre rôle de Gilles en tant que créateur. Et on a un dialogue qui se passe entre la marionnette et moi. Et donc Antoine, lui, il est tout en noir. On ne le voit pas du tout. C'est vraiment... Enfin, on ne le voit pas du tout. On le voit de temps en temps quand même, mais toujours cagoulé en noir. Qui a la manipulation de cette marionnette. Cédric, lui, c'est le technicien de la compagnie qui est en technique plateau sur scène et qui intervient aussi dans le spectacle. Parce que l'idée, c'est de montrer vraiment aussi tout l'envers de ce qu'est une création d'un spectacle, comment une scène peut apparaître partir d'une idée. Et puis, on voit la lumière, le son, le jeu qui se déploie et comment on voit naître une scène, quoi.
C'est un spectacle qui est tout public dès l'âge de 9 ans.
9 ans, on le met, ouais.
Est-ce qu'il y a des réactions étonnées par le fait que justement on s'adresse directement au public, mais pas en tant que personnage pratiquement ? On a presque l'impression, j'imagine, le public que tu n'es pas un personnage, que tu es toi-même.
Ah ben c'est comme ça qu'on le fait au départ. En tout cas, moi je me présente sur scène en disant que je m'appelle Gilles, je raconte mon parcours. Donc ça commence un petit peu comme un bord plateau, quoi, comme si c'était inversé, que le bord plateau se faisait en début de spectacle et que petit à petit, on intègre le spectacle sans trop voir venir le truc, quoi. Effectivement, ça peut déstabiliser un peu.
Ça peut. Est-ce que vous avez des moments similaires, Vincent et Cédric, où vous vous adressez directement, vous n'êtes pas dans un personnage forcément, ou vous êtes le personnage du début à la fin?
Je dirais que comme point commun, en tout cas, c'est inspiré de notre vie quotidienne. Enfin, je dirais, toi, c'est l'histoire avec ta marionnette. Nous, c'est le confinement et ce qu'on a ressenti de frustration de plus partir en tournée, puisque ça fait quand même partie de notre joie. Et c'est le mot qui va le plus résonner ici. C'est que on a senti que notre joie était vraiment mise à mal de plus tourner, de rester chez nous, de plus faire de concerts, de plus partir sur la route. Et donc, on a commencé à écrire là-dessus. Qu'est-ce que c'était un peu que la joie en général, après, en partant de notre sentiment à nous deux, et notamment le fait que la joie, c'était le partage aussi, c'était rencontrer les gens, au-delà même de faire des concerts, qui est notre joie de chanter, de faire de la musique, rencontrer les autres, partager. Et donc, on a commencé à écrire là-dessus. Donc, je dirais que c'est le point commun. Après, même si on est parti d'expériences personnelles, après, on a un metteur en scène qui intervient sur le spectacle, en l'occurrence Denis Attimon. Et avec Denis, nous, on lui demande plutôt de décaler après. Donc, on écrit d'abord... La base, c'est quand même des chansons qui sont sur la joie, sur la thématique de la joie. Et après, le metteur en scène, il nous amène... Là, on est parti sur un truc un peu plus fictionnel, où on est sur une sorte de représentant de commerce, dans une sorte de secte. Enfin, c'est un peu mélangé. Et ça, c'est une lecture plutôt pour les adultes. Oui. Les enfants, ils vivent un concert de joie. Et puis les adultes, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ces deux types qui nous mettent très mal à l'aise ? Parce que le but, c'est de créer du malaise pour les adultes, un maximum.
Et du bonheur pour les enfants.
Et du bonheur pour les enfants. c'est un but de joie pour tous, mais effectivement, il y a plusieurs lectures. Quoi.
Mais est-ce que parce qu'on s'adresse, a priori, d'abord à un jeune public, on doit donner plus de joie dans son écriture, ou c'est pas forcément nécessaire, vous, c'est ça que vous voulez faire, mais est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on mettrait pas un peu de tristesse aussi dans ces chansons ?
Je crois qu'on fonctionne vraiment pas comme ça, nous, depuis qu'on fait du jeune public. On fait déjà les choses qui nous plaisent et qui nous parlent, tant dans la musique que dans les paroles. Et après, on l'adapte, en fait. On l'adapte au très jeune public, là. Par contre, on veut toujours qu'il y ait une lecture pour les adultes, parce qu'on a envie, nous, en tant qu'adultes, quand on va voir un spectacle pour enfants, on n'aura pas envie de s'ennuyer. Et on a envie que les adultes passent aussi un bon moment. Et on sait que si les adultes sont bien, l'enfant, il sera bien aussi.
Et ça, à chaque fois, ça se passe comme ça avec vous.
À chaque fois, ça se passe comme ça, et c'est génial.
Carrément, dit Moset.
Nous, par exemple, pour les aides des gens qui sont coproducteurs, nous, c'est plutôt non, pas toi, toi là-bas, oui, c'est bon, voilà.
On choisit ses producteurs. Voilà. C'est beau. Je sais pas si c'est beau, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe.
C'est surtout la vérité.
c'est surtout la vérité. Alors, on va continuer à discuter avec maintenant Enora Boal. Tiens, cœur avec les doigts et j'ai lu une brigade arc-en-ciel. Quelle est cette brigade et qu'est-ce qu'elle veut nous dire?
La brigade arc-en-ciel, c'est un groupe d'amis, en fait, tout bonnement. Hein. C'est juste qu'au niveau des couleurs, on est sur des couleurs très, très flashy au plateau.
Et que les chevaliers du Zodiac, c'était pas possible parce que vous êtes que 4?
Je ne sais pas combien sont les chevaliers du Zodiac.
12 peut-être, j'en sais rien.
Je ne sais pas, je n'ai pas la ref. On est plutôt sur les biomanes, je crois qu'ils sont 4.
Ah, hein. C'est ça, on est plutôt proche des biomanes.
Non, proche de rien du tout, on est proche de nous.
D'accord.
Proche d'un groupe de 4 amis qui réfléchit un peu sur le sens de l'amour et d'où elles viennent dans leur histoire personnelle, donc dans leur enfance. Le point commun, c'est qu'on jouait au papa et à la maman. Donc on raconte ça, par exemple. Enfin, là, c'est un exemple d'une des scènes. Et puis, on commence à s'interroger sur ce qui nous va et ce qui ne nous va pas dans notre construction sociale à l'amour. Est-ce que le romantisme c'est vraiment si intéressant que ça, et de quoi on voudrait se débarrasser peut-être pour mieux vivre nos relations amoureuses. Donc c'est des on interroge vraiment l'amour dans tout le spectre qui l'englobe. Donc on parlait aussi énormément d'amitié. C'est quoi la différence entre l'amitié et l'amour, entre le désir et l'amour? On se pose beaucoup beaucoup de questions. Et on est 4 à avoir des couleurs différentes et donc aussi des points de vue différents. Et ça disserte un petit peu sur tout ça.
Si on se pose beaucoup de questions, vous les posez, vous, dans le spectacle, on peut se les poser même quand on est adulte, évidemment, mais c'est particulièrement, j'imagine, vers l'adolescence qu'on commence à se les poser. Donc c'est vers ce public-là que ça peut surtout se diriger, mais pas à l'exclusion d'autres publics.
J'aurais un peu la même réponse que mes camarades. Hein. C'est vrai que moi, quand j'écris un spectacle, je l'écris d'abord avec ce qui me traverse personnellement. C'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup posé la question du spectacle qu'on aurait voulu voir quand on était jeune, ado, pré-ado. Effectivement, au moment où on commence à se poser des questions sur l'amour, après moi, mes premiers sentiments amoureux, ils sont arrivés quand j'avais 4 ans. Donc voilà, on n'est pas parti sur cet âge-là. Parce que c'est vrai que ça parle quand même pas mal, on aborde beaucoup beaucoup de notions, donc là je pense qu'on les aurait perdues et il aurait fallu effectivement adapter beaucoup les choses. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours la façon de voir un spectacle comme c'est comme plusieurs spectacles différents, en fait. C'est vrai que quand on le joue en scolaire, quand on le joue dans des jeunes de 9 ans, il ne va pas résonner du tout de la même façon que devant des ados ou que pendant une toute publique. Et en fait, selon l'expérience de vie qu'on a, selon l'endroit où on est rendu dans sa vie et dans son expérience au monde, on va entendre et comprendre le spectacle différemment. Et je pense que les amours d'une pré-ado sont tout aussi puissants et dévastateurs que des amours de plus grands. Donc on essaye vraiment d'entrer en résonance avec les différents âges de la vie, avec quand même, je pense, à des scènes en particulier où je pense que là, il y en a une où je pense que ça touche à l'émotionnel pur et que là tout le monde sera raccord là-dessus, enfin, j'espère.
Et ça, on le dévoile pas, évidemment, hein, je comprends bien. Et Nora, on va écouter ta sélection musicale qui n'est pas un extrait du spectacle, mais qui pourrait quand même en faire partie. Tu vas préciser ça. Après, je te poserai quand même une dernière question autour du public, parce qu'il est en création ce spectacle. Il sera joué au Théâtre de l'Air Libre jeudi et vendredi. Pour autant, il a déjà été montré un peu avant en test, de quelle manière?
Alors on a fait ce qu'on appelle des crash tests, mais pas avec des salles complètes, avec juste deux classes à deux moments différents. Donc on a fait un filage avec un groupe de scolaires qui étaient des jeunes de 9-10 ans, et on l'a testé avec des ados de 14-15 ans. On voulait juste voir comment ça résonnait, comment ça réagissait. Et c'est très très intéressant de voir les moments où ça rit, c'est pas forcément les mêmes moments, les moments où c'est gêné, c'est tellement agréable. Et les moments où où les émotions sont fortes. Et il y a des moments où ça se regroupe, comme je disais tout à l'heure. Ouais.
Vous allez peut-être éprouver des émotions fortes, en tout cas. Ça décrit des émotions fortes, le titre qu'on écoute maintenant, thème de ouf, tu nous en reparles juste après, Enora, si tu veux bien. C'est Éloi, toujours dans cette émission Le Grand Tout, en presque direct de la salle Gyropart. En vrai différé, en tout cas, il est à peu près l'heure de manger au moment où on parle, là. Cédric regarde sa montre.
Il est 17h43.
Wow, il est fort, il est presque 17h43 dans ce vrai faux direct. À tout de suite.
Tu me sens profond dans le cœur et que t'as la place pour aucun.
Explosion électronique sur cette fin de morceau de Eloi. C'était Je t'aime de ouf. Enora Boel, on n'entend pas vraiment cette chanson dans Cœur avec tes doigts que tu proposes avec le avec tes camarades à l'air libre du côté de Saint-Jacques les 17 et 18 octobre. C'est quoi le rapport entre le spectacle et cette chanson-là?
Cette chanson a été un morceau qui m'a énormément accompagnée pendant la création du spectacle. Et au départ, elle devait être sur la scène finale du spectacle. Et j'étais convaincue qu'elle serait sur la scène finale. Sauf que, entre les convictions d'un début de création et 3 ans après, on change d'avis pour différentes raisons. En l'occurrence, parce qu'elle est déjà dans la scène finale d'un spectacle que j'ai beaucoup aimé. Donc, déjà, j'ai laissé tomber. Et sans en dire plus, elle apparaît, mais d'une autre manière, dans une autre version. Voilà, peut-être plus sirupeuse.
Vous irez la découvrir, l'utilisation de cette chanson-là, dans Cœur avec les doigts. Alors, peut-être reste-t-il encore des places pour les représentations à l'air libre jeudi et vendredi?
Vendredi, non, c'est complet. Donc, il faut venir jeudi. Et jeudi, c'est les premières et on paye un coup après.
On est toujours avec Virginie Dreano, directrice du Théâtre Lilico, et Enora Boel, qui fait partie du joli collectif. Gilles Devena, de Drôlatique Industrie, et puis Cédric Goyomar et Vincent Périgaud, qui vous proposent d'aller vous approcher du soleil sans vous brûler. Et ça, c'est compliqué, en fait.
Avec nous, c'est pas compliqué, non.
De pas se brûler.
Se brûler, si.
Tous deux, vous connaissez et vous faites des spectacles ensemble depuis très, très longtemps. Je vais pas en rajouter un troisième très.
Ouais, mais ça fait très, très. Ça va fêter nos 30 ans. L'année prochaine. Donc effectivement, ça fait un petit bout de temps qu'on bosse ensemble. On a commencé à la maternelle, on peut le dire. On va fêter nos 30 ans de collaboration. Donc ça fait un moment qu'on fait des projets ensemble. Ouais.
Peut-être pas à la maternelle, mais vous avez commencé assez jeune quand même.
En tout cas, on s'est connus au lycée, ouais. Donc effectivement, on s'est connus quand même on était très jeunes pour notre premier groupe de pop. Mais c'est le festival, nos débuts dans le jeune public, c'est vraiment le festival Marmaille, puisque on avait notre groupe de pop avec Vincent. Et le festival Marmaille, il y a plus de 20 ans maintenant, cherchait des groupes, mais qui soient pas, entre guillemets, un peu niais, je dirais, pour les enfants, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Ça a beaucoup changé, mais il y avait beaucoup de choses. Je regarde en même temps Géraldine de la com du festival pour être sûr de pas dire de conneries.
Il y avait quand même des gens comme Vincent Malone, par exemple, qui faisaient des choses.
Il y a 20 ans, il y avait quand même Vincent Malone, t'as raison. Mais il y avait pas que ça. Il y avait aussi beaucoup de trucs où c'était, les petits lapins, les petits abricots. Voilà. Naïf, merci.
Voilà.
Et c'est vrai que on nous demandait, et c'est comme ça qu'on a commencé le festival Marmaille. Nous a dit, est-ce que vous voulez pas garder vos chansons, vous gardez vos textes, vous gardez vos musiques, juste vous adresser, vous l'adapter, voilà, aux enfants de 6 ans et plus. Donc comme on a commencé comme ça, je dirais qu'on est resté dans cette idée-là de d'écrire d'abord ce qu'on aimait, en texte et en musique, et puis après de l'adapter. Mais le Festival Marmaille, je pense, a eu cette bonne idée de rester sur des choses, et je pense que c'était à l'image du festival, des choses intelligentes. Pour tout le monde, quoi. Et c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, mais c'est intelligent pour tout le monde. Et c'est pas juste parce qu'on fait pour les enfants que tout à coup on devient avec un QI très déficient, par exemple, parce qu'on s'adresse à des enfants.
C'est pas nécessaire. Alors, ce Soleil Planète, c'est des chansons où la joie est en première ligne. Ça, on l'a bien compris, tu nous disais tout à l'heure, Cédric. Mais pour ce qui est de la scénographie, pour ce qui est des costumes aussi, vous êtes un petit peu des représentants un peu chelous, un peu gourous d'une secte bizarre. Ça, c'est pour les parents. Mais comment les enfants vous voient finalement? Ils vous l'ont dit après, ceux devant lesquels vous avez pu jouer déjà sur les planètes?
Oui, nous on fait, alors c'est presque des crash tests, pour reprendre Enora. Nous on fait des crash tests, effectivement, parce que ce sont vraiment des tout petits. Et on voit bien, en fait, qu'ils sont plutôt un peu subjugués au départ, parce qu'il y a des lumières, il y a tout un travail. Donc Vincent, il fait la programmation électro, mais la programmation des lumières aussi, qui sont sur la scénographie. On a des costumes où on fait, qui font un peu science-fiction. On a un peu l'impression qu'on est des personnages du futur avec des couleurs et des formes. Je dirais, on a des sortes de grandes jupes, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que eux, après, ils ont aucun code. Donc, ils découvrent ça, ils regardent, ils entendent les sons. Il y a l'émotion des voix, il y a l'émotion des mélodies, il y a les déplacements, les superbes chorégraphies, effectivement, qu'on a sur le concert. Donc, on sait bien qu'eux, ils prennent et s'ils prennent pas le sens, en tout cas, ils vont ressentir quelque chose. Et vraiment, la joie est très présente parce qu'on a envie, nous, on est contents d'être là, de chanter, de danser et de partager avec eux. Je pense qu'il y a plein d'émotions qui nous échappent aussi parce qu'ils n'ont pas le sens comme les adultes, mais c'est ça qui nous... C'est ça qui nous plaît une fois de plus, quoi. C'est que chacun a sa lecture.
Je rajouterais même que c'est un peu embêtant tellement ça se passe bien, parce que c'est leur premier concert à eux, mais tout ce qui va arriver derrière va leur paraître du coup un petit peu fade.
Et j'espère qu'ils vont voir vos spectacles, par exemple, évidemment avant de voir le nôtre.
Mais tu veux dire les concerts qu'ils verront après ou tout dans la vie leur paraîtra fade parce qu'ils auront vu votre spectacle.
Tout la vie devient extrêmement effectivement terne et il y a beaucoup de personnes qui ne savent plus trop quoi faire de leur vie après nous avoir vus sur scène. Ouais, c'est vrai, on va pas se le cacher.
Ils ont grandi forcément vos fans de la première heure. On imagine que le monde ne leur paraît pas si fade que ça quand même, évidemment.
C'est bien d'imaginer.
On peut imaginer. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent vous voir après comme ça et qui vous disent franchement, c'était le meilleur truc que j'ai vu et après ça m'a permis d'aller écouter d'autres musiques et tout.
Alors, ça, précisément avec ces mots-là, non, évidemment. Hein. C'est plutôt des gens qui ne sont plus du tout allés voir des concerts ou des choses comme ça. Non, plus sérieusement, ça nous est arrivé comme ça fait très longtemps qu'on fait des concerts. On a fait aussi des concerts pour les ados sur les risques auditifs sur la région Bretagne. Il y a un groupe par région, ça s'appelle Peace and Lobe et nous, du coup, on
Peace
a...
Peace and Lobe, hein, je reprécise pour ceux qui n'auraient pas entendu le jeu de
Peace
mots.
Peace and Lobe, absolument. Voilà. Ce délicieux jeu de mots. Nous n'en sommes pas à l'origine, hein. Nous ne sommes pas les auteurs de ce jeu de mots. Mais ça fait qu'il y a beaucoup d'ados qui nous ont vus entre 14 et 16 ans. Et aujourd'hui, on est accueillis par des régisseurs qui ont vu ce spectacle et qui sont devenus, en tout cas on en a rencontré, qui sont devenus régisseurs parce que ce concert leur avait donné envie de devenir, enfin de travailler dans la musique et de devenir régisseur. Voilà, bon, c'est pas une super anecdote.
C'est une anecdote.
Je vois bien que tout le monde s'emmerde clairement dans l'émission depuis que je parle de cette anecdote pourrie et je tiens à faire mes excuses à toute l'équipe.
Voilà. Ça va. Est-ce qu'on pourrait, on peut lui décerner le titre de nullegdote ?
Voilà, c'était vraiment la grosse nullegdote, effectivement. Ouais. Pardon.
Mais bon, pas mal quand même.
Pardon, Rennes.
Pas mal Mosé, alors, du coup, pour inverser
alors,
hein,
voilà,
ce qui était
non,
fait
ça,
il y a quelques
dur, ça,
années.
Ça, c'est mais... dur, pas mal Mosé, ouais. Par rapport à ce concert, effectivement, super Mosé, pas mal Vincent.
C'est ça.
Qui était un
vieux
demo concert qui date, ouais.
On reparle pas de ça, c'est un peu trop
merci,
ancien, ouais. Puisque de toute merci. Façon, là, vous allez pouvoir voir Soleil Planet danser et chanter et faire tout ce que vous voulez.
Tout à fait.
Bien sûr, les 19, 20, 22 et 23 octobre. Alors, ça se balade un peu partout, hein. Verne-sur-Sèche, la Bélangerie, Saint-Gilles, l'Oéac. Ouais. Ouh, j'ai le tournis.
On va dire un peu partout sur un périmètre quand même de 10 km.
C'est restreint,
quoi,
c'est
oui,
vrai.
Oui,
c'est
oui,
vrai,
oui
c'est
je suis d'accord. Tout est relatif.
L'Oéac, c'est un peu plus loin.
L'Oéac, ouais, on est quand même obligé de prendre un bus avec Vincent, mais sinon le reste, on le fait à pied, a priori.
On va faire une pause musicale, bah tiens, en compagnie de vous deux. Cette fois-ci, le morceau La La La. On va comprendre que c'est une volonté de faire très entêtant, en fait, hein, cette
oui,
chanson-là.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis, oui, on en parle après. Nous, c'est vrai qu'on est beaucoup plus auto-centré que les autres, puisqu'on a choisi une chanson à nous. Voilà, donc c'est vrai que on se rend compte qu'on est un peu... Voilà, on le savait qu'on était très auto-centré, mais là, ça fait mal de le découvrir à ce point.
On écoute la extrait du spectacle Soleil Planète de Mosé et Vincent.
Le froid que tu souffles sur mes joues, sur mon cou, mes bras, sur mes joues, mes doigts. Le froid que tu souffles partout sur moi. Bien, je veux être bien, que tu me serres fort dans les coins. Je veux me sentir plein d'amour et pas de chagrin. Je veux prendre des câlins et des bains. La la la.
verglas. Ce verglas tu mets sous mes pas. Ça glisse de fou, tu vois, j'tiens pas debout. J'tombe à plat, c'est chaque fois que je reprends des coups. Du soleil, j'veux du soleil. J'veux du soleil sur mon front. Que ces rayons me réveillent. J'veux des merveilles, du miel, pas des marrons. La la la. La la la. La 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 la. Avoir chaud, avoir comme un manteau sur la peau, avoir les mots qui rendent beau et qui donnent chaud. La la la.
Il s'appelle comme ça le morceau.
Exact, et on continue. La la la. C'est un morceau qu'on fait chanter, effectivement.
Ça peut durer quelques heures.
Tout à fait. Le concert dure 4h50, exactement.
On peut savoir peut-être, Mosé et Vincent, chacun pourra donner sa version de la chanson, ce qui se cache derrière cette injonction à du bonheur en forme de câlin, en forme de bain, des choses joyeuses et douces et chaudes et chaleureuses à l'opposé d'autres choses.
Oui, parce que effectivement la joie c'est aussi, à l'inverse de ces moments de non-joie et d'empêchement de la joie, c'est comme ça qu'est né ce concert. Mais par exemple, là, ça parle plutôt une chanson qui parle d'être mis à mal, d'être, voilà, pour aller même plus loin, ça peut parler de violence familiale et même les métaphores du couplet. On a gardé en fait les couplets tels quels avec les métaphores sur cette violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et c'est vrai qu'au départ, le refrain de cette chanson-là disait plus clairement les violences qu'on pouvait subir à tous les âges, d'ailleurs. Pas forcément que en tant qu'enfant. Et puis on s'est rendu compte que ça pouvait heurter plutôt des adultes qui, eux, viennent nous le dire. On a pu avoir ce retour que le texte les heurtait beaucoup. Et comme c'est pas le but, en tout cas, de ce concert, c'est devenu la la la, un refrain qu'on fait chanter et les enfants chantent. Et j'ai surtout donc une amie avec qui j'ai eu cet échange là sur cette chanson, et elle est venue au concert et ça lui fait un bien fou, en fait. Elle, ce refrain que tout le monde chante, que les enfants chantent, il y a un truc qui se veut évidemment plutôt bénéfique et voilà. C'est un peu, après, ça ne soigne pas tous les maux, ce concert, mais l'idée c'est quand même qu'on reparte plutôt joyeux de ce concert.
Tu le disais tout à l'heure, quand vous avez commencé, Vincent et puis Cédric, vous vouliez pas faire des choses naïves, trop spécialement dédiées à des enfants tels qu'on l'imaginait, qu'il fallait s'adresser à eux. Voilà. Ouais. On l'entend à travers votre spectacle, Un cœur avec les doigts, Un personnage sans histoire, et puis vos chansons aussi. On ne prend pas les enfants pour des idiots, évidemment. On essaye de les faire aller vers une belle progression de vie, sans doute, j'en sais rien. Mais en tout cas, les thèmes qui sont abordés, Virginie Triano, directrice de Lilico, est-ce que tu mets des limites ou dans l'équipe de Lilico, ce sujet-là, est-ce qu'on parle de la guerre, par exemple? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on parle de tuerie de masse? Oui, je sais, ça paraît...
Ouais, j'ai pas encore eu ce choix à faire.
T'as pas eu à faire ce choix-là, sans doute, mais il y a des sujets qui paraissent un peu touchy au début, comme ça, et puis finalement, non, on y va.
Ouais, bien sûr, en fait, je pense que rien n'est impossible, en fait, à l'adresse des enfants. Et je pense qu'avoir le même regard que pour du tout public, en fait, et on se poserait pas ce genre de questions. Donc, faut absolument pas se la poser. Et évidemment qu'ils sont intelligents, autant qu'un adulte, en fait, c'est pas une personne en devenir, en termes d'âge, d'expérience, etc., mais il y a plein potentiel. Et au contraire, moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il y a une vraie ouverture d'esprit, en fait. Et je trouve qu'on a aussi beaucoup à leur dire, à leur raconter et rendre notre monde. Alors, c'est vrai, moi, je trouve, en parlant de guerre ou autre, parfois, je me dis que c'est peut-être aussi un peu anxiogène, ce qu'on traverse. Alors, je sais pas, peut-être qu'on disait déjà ça avant, mais je trouve que ça se durcit, voilà. Et au contraire, je trouve que la création pour l'art et la jeunesse leur permet d'avoir un autre regard, en fait, sur leur quotidien, mais aussi sur le sens du monde. Et une expérience beaucoup plus sensible, en fait, à ce qui les entoure. Moi, je trouve ça extrêmement important, en fait. Donc, au contraire, pas de tabou, pourvu que ce soit bien traité et traité avec considération pour ce qu'ils sont.
Tu l'évoquais en début d'émission tout à l'heure, la fragilité du secteur du spectacle vivant et aussi pour les enfants, évidemment. On peut aussi poser des questions sur sur l'autocensure qui commence à pointer son nez dans certaines structures qui, parce qu'elles sont sur un territoire où les élus sont d'un bord qui n'aime pas trop la tolérance, l'ouverture vers l'autre, la curiosité. Est-ce que ça, c'est pas un peu effrayant du côté de la programmation, hein, du côté de des structures, du côté des artistes, où il y a de la bonne volonté forcément, mais ça va parfois être se heurter à des refus qui vont mettre en péril la survie des structures et des artistes eux-mêmes.
Oui, oui, tout à fait. Et en fait, sur l'autocensure, faudrait aussi avoir. Alors, il y a le contexte, hein, des élus, le contexte local, une pression, etc., que je ne vis pas du tout, moi. Voilà. Mais il y a aussi l'autocensure. Et en fait, moi, je me demande, il faut prendre du recul parfois par rapport à ses propres freins et ses propres fantômes ou autres, quoi. Et on a parfois des facilités à être auto-limitants dans nos capacités à faire, dans nos capacités à programmer, dans nos capacités à porter, à co-porter des projets. Et ce serait, alors, c'est une vague question, en fait, mais j'ai aucune prétention quant à la réponse, parce que moi-même, je suis dans un schéma. Restons combatifs et par contre tout à fait lucides sur nos freins. Parfois, ça va être des freins donc politiques, mais aussi le côté ça va pas marcher, ça va pas remplir, je vais pas. Voilà. Alors on fait pas ce métier pour se faire mal. C'est vrai que des salles, par exemple vides, ça fait toujours hyper mal au cœur ou au ventre. Mais et en même temps, est-ce que moi ça m'intéresse beaucoup en fait, c'est quel chemin à accomplir avec l'équipe, parce que j'y vais pas toute seule bien sûr, avec les structures qui nous entourent pour y arriver en fait et avoir le moins possiblement de postures auto-limitantes. Je sais pas si je suis claire, mais je n'en suis que là en fait.
Bon, on peut se rassurer évidemment ici. Peut-être à Rennes, et c'est sûr que c'est pas la même chose partout, parce que on est sur un territoire qui accompagne bien les structures comme l'Illico, et puis qui ne met pas de censure sur les propos des artistes et du théâtre l'Illico, j'en suis sûr.
Non, pas du tout.
Je l'avais bien dit.
En tout cas, on va pas en parler maintenant.
Je l'avais dit en off, j'avais dit surtout pas à l'antenne. Bon, c'est pas grave.
Avant de terminer l'émission avec Gilles de Bénat pour avoir un peu plus d'histoire sur ce personnage sans histoire, j'ai une dernière question quand même à poser à Nora. Tu parles de questions amoureuses, amitié aussi, dans Cœur avec les doigts. Le spectacle dit qu'il peut y avoir des relations amicales, voire amoureuses, entre des garçons et des garçons, des filles et des garçons, des filles et des filles. Il serait possible que tu te frottes à justement de la censure de la part de certaines structures qui, du coup, n'auront pas envie de t'accueillir. Peu importe.
La question de l'autocensure a été un gros, gros sujet pendant la création de ce spectacle. Parce qu'il y a des questions. Parce qu'en fait, dans le spectacle, on essaye de casser les cases, en fait, les cases de l'amour, les cases hétéropatriarcales de l'amour. C'est du vocabulaire qu'on n'utilise pas dans le spectacle, mais voilà. Et du coup, on essaye de, sans nommer les choses, les faire exister de manière complètement libre et assumée. Et voilà, de voilà, sur les questions d'identité de genre, nos identités de genre sont fluides, sont troubles, sont non-binaires, clairement. Et du coup, voilà, et en fait, c'est dans l'écriture qu'on a beaucoup réfléchi à ça, quels mots on utilise, quel genre on utilise dans les adjectifs nommés, parce qu'en fait, on parle parfois en notre nom, mais on parle aussi de questions plus... on se pose la question sur l'amour en général, l'amour entre deux personnes, et du coup, on fait exister plutôt qu'on ne nomme. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais parce que il nous semble important de, enfin, les choses bougent aussi quand par rapport aux représentations, par rapport à ce qu'on voit sur scène. Et on n'est pas obligé d'amener les choses de manière frontale et en mode de coup de poing, mais on peut exister sans se justifier aussi. Et donc c'est pas de l'autocensure, c'est une sorte de subtilité pour faire passer des messages. Et c'est vrai qu'on a eu des questions sur le crash test, justement, où on nous posait la question, mais vous êtes des garçons ou des filles? Voilà. Mais en fait, on est volontairement dans une démarche fluide. Et nos prénoms dans le spectacle sont des prénoms de plantes. Donc on est aussi dans toute une métaphore sur la question de construire des forêts du futur et laisser pousser les mauvaises herbes, enfin celles qu'on appelle les mauvaises herbes. Voilà, et imaginer d'autres possibles. Mais on essaye, enfin vraiment, on a vraiment essayé avec Mardi de ne pas être dans une démarche didactique et pédagogique, mais juste poétique et... Et on a aussi des super costumes, j'avais envie de dire. Voilà.
On peut dire de qui ils sont, ces costumes, si
oui,
tu
oui,
veux.
Bah, ouais, ouais.
Johanna Rocard, il me semble.
Oui, on a travaillé avec Johanna Rocard, qui est une artiste plasticienne, performeuse, et voilà, qui nous a créé un peu des figures, des amours pluriels. Bon, attention, parce que je vais en dire trop, là, donc je vais m'arrêter là.
Bon, ben, cœur avec les doigts sur cœur avec les doigts. Alors, vous retrouvez le spectacle pendant le Festival de Marmaille à l'air libre. On va terminer cette discussion ici, à la salle Guy Repas. Avec pas forcément une description totale d'une exposition qui est dans le hall. Il faut manager quand même quelques petites surprises, mais parler un petit peu, si tu veux bien, Gilles, de ce personnage sans histoire, mais avec un passé et puis des objets qui lui appartiennent ou que tu lui fais correspondre. Quoi. Ouais. Elle est vraiment... Avant le spectacle, cette exposition, ou tu l'as faite après?
Non, alors c'est une exposition qui accompagne le spectacle.
Elle accompagne.
Partout où il va jouer. Et en fait, c'est une exposition qu'on peut voir soit avant, soit après la représentation. Et c'était un peu l'idée de montrer aussi encore l'envers du décor. Et donc, donc au départ, c'était une bande dessinée, le spectacle que j'ai adapté pour la scène, que j'ai faite il y a 4 ans, la BD. Et donc, du coup, on peut voir les planches originales de la bande dessinée, des croquis préparatoires de la bande dessinée. Et moi, de plus en plus souvent, je fais ce que j'appelle des journaux de bord de la création. C'est-à-dire que je commence le journal à partir de la première résidence de création et je le tiens jusqu'à la première du spectacle. Et donc là, c'est un journal, moi, qui m'aide, enfin, où je couche des dessins, des idées, des pensées qui m'aident à avancer, où je fais des storyboards aussi assez précis de ce que j'imagine, de ce que sera le spectacle. Et donc ça, je le mets dans l'exposition et les gens peuvent avoir accès à ça, à des pensées sur le vif de ce que j'étais en train de vivre pendant les résidences. Et en plus, il y a aussi des objets qui auraient dû servir dans le spectacle et qui ont été virés pendant les répétitions. Donc ça devient des objets et accessoires sans histoire.
Je pourrais vous en décrire quelques-uns. Un masque qui fait un peu peur, une main d'ours qui fait très très peur, une couronne qui est celle d'un roi ou d'une reine probablement, hein, un petit drapeau qui demande à l'aide, et puis des plantes qu'on a vues déjà ou qu'on n'a jamais vues avant. Ça donne des indices un petit peu sur les histoires qui vont arriver à ce personnage qui pourtant n'en avait pas au début du spectacle.
Pas forcément. On peut se demander où on pouvait trouver ça dans le spectacle, mais on trouve la réponse dans les storyboards qui se trouvent dans le journal de bord.
Du coup, est-ce qu'on peut dire que tu as fait un peu n'importe quoi sur les tableaux ou pas du tout?
Non, pas du tout. Tout est pensé.
Très bien, merci.
Ce personnage sans histoire, c'est un petit peu, oui, une marionnette en quête d'histoire et de vie, et évidemment. C'est une page blanche, alors c'est idéal pour venir la noircir et puis inventer des histoires. Et c'est idéal pour emporter avec soi le public aussi, parce qu'il n'y a pas de présupposé, de préconception de qui on voit là, puisqu'on ne sait pas, et que la personne ne sait pas non plus. C'est quand même une trouvaille assez géniale, en fait.
J'en sais rien. En tout cas, est-ce que ça. On a donc, du coup, le point de vue du personnage, de cette marionnette, mais aussi celui du créateur, de moi, qui suit le syndrome de la page blanche vis-à-vis d'elle. Et donc, on a vraiment ces deux points de vue dans le spectacle, quoi.
Les spectateurs, spectatrices, ils vont peut-être se reconnaître dans la marionnette à mesure qu'elle a une histoire, peut-être dans ce narrateur.
Peut-être, en tout cas, apparemment, on est assez en empathie avec cette marionnette-là. On aurait envie vraiment qu'elle existe, quoi.
Elle existe parce qu'elle existait depuis 12 ans en physique, en fait, cette marionnette, tu l'avais fabriquée. Elle est arrivée dans ce spectacle-là après une bande dessinée. Pourquoi tous ces détours, en fait? Il faut du temps comme ça à chaque fois que
la
journalistique industrie crée un spectacle.
Non, pas du tout. Là, c'est la première fois que c'est sur la durée comme ça, quoi. Mais voilà, là, ça a été les aléas de cette création. Et au final, l'histoire qu'on voit sur scène, c'est sa véritable histoire, elle.
Parmi les rencontres professionnelles qui sont proposées dans le cadre de Marma, il en existe une qui s'appelle « Comment adapter un album jeunesse à la scène ?» Alors, je ne sais pas si c'est toi qui vas l'animer, Gilles, sans doute pas.
Non.
Mais peut-être vas-tu y assister avec intérêt ? Pas plus que ça.
Je ne sais pas.
Non, en fait, aucun intérêt. J'y arriverai pas. Et en plus, c'est pas bien.
C'est marrant parce que tu me disais justement, tiens, j'ai très envie d'aller voir ce... Vraiment, j'ai un spectacle en même temps, mais je pense que je vais l'annuler. C'est ce que je te disais.
Bon, je vais plutôt terminer avec Virginie sur cet aspect-là du Festival Marmaille. Non, mais bien sûr, vous êtes là pour jouer au spectacle, mais pas forcément le temps d'aller voir ces rencontres professionnelles ou d'y intervenir en tant que...
Bah oui, des fois, c'est compliqué.
Mais c'est intéressant que tu interroges Virginie qui, justement, veut te parler du spectacle qu'elle est en train d'écrire en ce moment.
Exactement.
Ouais. Mais tout le monde fait tout ici, c'est formidable. Ouais. Donc, il y a des ateliers d'écriture, il y a comment adapter un album jeunesse à la scène, donc je l'ai dit, et puis aussi voir aussi des démarches artistiques dans un format assez, assez réduit, assez différent. C'est la partie qui va plaire surtout aux programmateurs, programmatrices, ou pas uniquement. Qui est convoqué ou convié à ces rencontres professionnelles?
Alors, sur les rencontres professionnelles de Ancre, c'est à la fois les programmateurs tristes et également les artistes, en fait, concernés par cette démarche d'adaptation, en fait, au plateau. Pour les rencontres organisées avec Spectacle Vivant en Bretagne, c'est plutôt même exclusivement les programmateurs et programmatrices, puisqu'ils sont, il y a trois parcours en fait de compagnies bretonnes, donc c'est des parcours d'artistes et pas forcément des parcours de création. Donc on s'attache à leur démarche depuis 10, 15 ans et pas uniquement à une création en devenir. En fait, c'est beaucoup plus global, ce que je trouve très intéressant. Et oui, ces rencontres-là, nous on était contents de les organiser. Il y a ce soir aussi un dîner qui s'appelle Dinon. Aux ateliers, c'est génial.
Ben oui.
Merci Géraldine. qui a lieu donc aux ateliers du vent, qui est complet et en fait qui était réservé aux professionnels du spectacle vivant. Donc pas programmateurs exclusivement, mais les chargés de production, d'administration, de com, etc. Tous ces gens et artistes, techniciens, tous ces gens essentiels à notre secteur. Et si je dis ça, c'est qu'aussi il y a le côté en fait important du festival pour les artistes et on est très contents. C'est il y a beaucoup de programmateurs et programmatrices qui sont venus sur cette édition. Bon, je ne sais pas combien, on n'a pas encore fait les statistiques, mais on le sent en fait. Et qui viennent au niveau national. Et c'est un 4, me dit. Ouais. Donc 4, 4 dont 3 d'Ille-et-Vilaine, ce qui est énorme. C'est vrai, c'est un vrai saut, je crois, par rapport aux autres éditions où ils étaient 2, c'est ça. Mais non, mais et parce qu'en fait, il y a aussi un grand enjeu pour les compagnies programmées, c'est d'être vu, en fait. Et d'être vu, pour peu que ça marche, ça veut dire être diffusé, programmé, et ça veut dire pouvoir continuer à encore œuvrer. Oui, et puis œuvrer pour ce secteur. Et voilà, donc c'est aussi tout ce qu'on leur souhaite, c'est que c'est un enjeu dans l'enjeu. Il y a le plaisir hein, du public, etc., qui est tout à fait important. Des salles belles, pleines, avec de la joie, beaucoup de joie. Mais aussi, voilà, que ce soit vu et que ça permette d'avoir plein de dates derrière. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir.
Eh bien, venez voir ces spectacles. Ça fera plaisir aussi à ceux qui vous accompagneront, à vous et puis aux artistes qu'on avait ici aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous. Merci Enora, merci Vincent et Cédric.
Merci.
Merci Gilles.
Merci.
Merci Virginie.
Merci.
Pour le Théâtre Lilico,
merci,
le
Yann.
Festival. Merci Cédric.
Merci Yann.
Merci Enora. Le festival se poursuit jusqu'au 23 octobre. Retrouvez toute la programmation parce qu'on n'a pas tout cité évidemment. On n'a parlé que de 3 spectacles ici. Retrouvez tout sur lilicojeunepublic.fr. On va terminer en musique et je me tourne une dernière fois vers Gilles de Bénat pour nous le présenter, ce titre qui va faire plaisir à la fois aux tout jeunes spectateurs, spectatrices, à leurs parents, à leurs grands-parents et même aux tombes de leurs arrière-grands-parents peut-être.
C'est ça, c'est peut-être bien que tu la passes en dernier cette musique parce que peut-être que ça peut perdre certains auditeurs et auditrices. Et en tout cas, c'est J'attendrai de Rita Kelly. C'est une chanson des années...
Je crois que c'est Rina Ketty en fait.
Rina Ketty, voilà. Et en fait, j'ai choisi cette chanson en lien avec le spectacle parce que c'est une marionnette qui attend d'avoir une histoire, tout ça. Et c'est une chanson que j'avais proposée à Wenceslas Hervieux qui a fait toute la musique du spectacle, qui a réinjecté quelques petites notes, mais vraiment imperceptibles, dans plusieurs musiques durant le spectacle. Je vous laisse apprécier.
Eh bien, on appréciera. Merci beaucoup, Gilles. Et découvrez donc peut-être les plus jeunes auditeurs, auditrices de Canal B. Bon, j'attendrai. Rina Ketty, on se retrouve peut-être dans une salle qui propose des spectacles du Festival Marmaille. Et dans l'émission de jeudi, eh bien, on va changer complètement d'ambiance puisque ce sera une émission consacrée dans cette journée spéciale Cafioul, eh bien, à l'association qui propose des concerts de musiques indociles à Rennes depuis 30 ans. Mais ils ont peut-être aussi un jeune public qui vient voir leur concert. Je ne sais pas. On termine avec Rina Ketty. Merci à toutes, merci à tous. Merci à Géraldine et puis à toute l'équipe du Théâtre Lilico qui nous accueillait ici. C'est facile, vous prenez le métro ligne B, Gailleul, et puis c'est juste en face.
J'attendrai.
J'attendrai.